Bonsoir. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme fait état des 10 endroits dans le quartier central dont les faits et témoignages précis indiquent qu'il s'agit des fosses communes. La coordonnatrice de l'unité rapport et enquête spéciale de cette institution l'a affirmé hier mercredi à la conférence hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa. En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais affirme avoir avoué dernièrement être au courant de plus de 3 fosses communes dans cette partie du territoire national et que les enquêtes des juges militaires étaient déjà lancées. Comment analyser ces révélations? C'est la question du débat et nous en parlons avec Maître Guillaume Mandjolo. Il est avocat et secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Maître Guillaume Mandjolo.
Bonsoir Monsieur Guy.
Maître Georges Kapiamba, il est avocat, il est aussi président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Il est aussi coordonnateur de la coalition des 33 ONG de défense des droits de l'homme. Bonsoir Maître Georges Kapiamba.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Et Maître Rufin Louko, il est avocat et chercheur en droits humains. Bonsoir Maître Rufin Louko.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme plaide pour la sécurisation jusqu'à l'aboutissement des enquêtes des 10 endroits dans le Kasaï central dont les faits et témoignages précis indiquent qu'il s'agit des fosses communes. Dans une interview accordée à Radio Kapi, la coordinatrice de l'unité rapport et enquête spéciale de ces bureaux souligne que les rapports sur ces 10 cas ont été envoyés au gouvernement congolais. Barbara Matasconi est au micro de Michel Kifindangoï.
Pour certaines allégations, nous ne sommes pas en mesure de confirmer pour l'instant. Pour d'autres, nous nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des restes humains, nous avons des indications assez précises à travers des témoignages des familles des victimes, des témoins, ainsi de suite. Par rapport au nombre de fosses, nous avons communiqué des indications très précises sur des endroits où nous sommes assez sûrs que ce que nous avons vu, les témoignages que nous avons recueillis, font état des fosses communes. Pour être plus précis, ça se réfère pas seulement à des faits récents. On avait transmis aux autorités le mois de décembre des allégations sur la présence de 7 fosses communes qui remontaient, d'après nos recherches, à des faits qui se sont passés en fin septembre 2016 en Coton, dans les territoires de Lemba. Et ensuite, le mois de mars, nous avons transmis un autre rapport assez précis avec des lieux et des précisions des dates ainsi de suite au gouvernement, faisant état d'au moins 3 fosses communes aux alentours de Chimburu.
Rappelons que dans sa réaction faite sur cette question des fosses communes au Kasaï central, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende avait avoué dernièrement être au courant de plus de 3 fosses communes dans cette partie du territoire national et que les enquêtes des juges militaires étaient déjà lancées. Par ailleurs, selon le communiqué sanctionnant les travaux de la réunion interinstitutionnelle tenue mardi à Kinshasa et présidée par le président de la République, 67 policiers et plusieurs militaires FRDC ont été tués depuis que les miliciens Kamuina Nsapu affrontent les forces de l'ordre dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et le Mwami. La réunion interinstitutionnelle qui réunit les responsables de plusieurs institutions du pays recommande à la justice de poursuivre les auteurs de ces crimes. Maître Guillaume Mandjolo, je rappelle que vous êtes avocat et secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens. Vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. Votre analyse par rapport à toutes ces révélations?
Merci. D'abord, la consternation par rapport à la situation telle qu'elle est présentée, et puisque bon, on parle des allégations d'une part, on parle des précisions d'autre part et tout ça, il va falloir maintenant que les enquêtes puissent démontrer ce qui est exactement. On ne peut pas s'avancer de manière détaillée, mais simplement les conséquences que nous subissons, parce que moi-même je suis ressortissant du Kasaï central et de Luisa pour être plus précis, et sont catastrophiques. Et il me semble que pour l'instant, il y a la démarche qui est faite. C'est un, de pouvoir laisser les autorités judiciaires du secteur militaire de pouvoir faire leur travail et qui déterminent effectivement de quoi s'agit-il. Parce que, quelque part, nous avons, on pourra trouver ça peut-être un peu burlesque, on a parlé de l'invulnérabilité de ces milices-là qui ne pouvaient pas être tuées, et ainsi de suite et tout ça. Mais bon, entre-temps, il y a eu énormément de forces de l'ordre qui sont tombées, à la fois du côté militaire et du côté policier. Et ça a été établi, à la fois par ceux qui étaient sur le terrain, et les miliciens eux-mêmes se prévalaient d'avoir tué beaucoup de soldats et tout ça. Donc c'est une chose qui est tout à fait aujourd'hui établie. Bon, maintenant, il faut savoir dans quelles conditions. Est-ce qu'il n'y a que les militaires, il n'y a que les policiers, il y a aussi les civils, et quel type de civils? Et aux dernières discussions entre le gouvernement, dans la délégation qui avait été conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, il s'est avéré qu'effectivement la famille Kamuinasapu, hein, les clans Kamuinasapu, a dit qu'il y avait des éléments Kamuinasapu et les miliciens n'étaient pas Kamuinasapu. Donc là aussi, il y a quelque chose à pouvoir déterminer, il faut qu'on puisse faire un distinguo assez précis.
Il y avait des éléments Kamuinasapu et les miliciens n'étaient pas des miliciens Kamuinasapu.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo aujourd'hui tout à fait clair qui veut dire ceci. C'est qu'il y a des gens qui ont eu des revendications liées à une situation particulière au niveau des Dibaya Chimbulu. Ça, c'est connu. C'est les Kamuinasapu. En arrière de la situation qui s'est passée chez eux, la mort de leur chef et certaines exactions qui ont été établies, notamment face à cette tribu-là. Maintenant, il y a une sorte de contagion liée à la criminalité pure à travers quasiment toute la province du Kasaï central.
Et les Kamuinasapu miliciens, ils sont tous congolais, c'est des humains.
Non, j'ai fait la distinction entre deux choses. Il y a une revendication qui peut paraître légitime en ce qui concerne les éléments Kamuinasapu liés à la situation particulière des Kamuinasapu, les Mpandi. D'accord. Maintenant, à côté de ça, il y a une contagion liée à une criminalité qui n'a plus rien à voir avec quoi que ce soit. Parce que lorsque les gens se déplacent à Luisa, alors que l'histoire se passe à Chimbulu, ça n'a rien à voir avec Luisa. Luisa n'est pas concernée par rapport à ça. Quand il y a un chef coutumé qui est égorgé, avec la tête tranchée, dans ces cadres-là, par ces miliciens-là, est-ce que ce sont des choses tout à fait liées à la situation des Kamuinasapu au niveau des Libaya ou ce n'est pas lié? Ben, ce n'est pas lié du tout. Et ceux qui sont partis faire ça n'ont rien à voir avec Kamuinasapu. C'est-à-dire, on s'habille, on s'étiquette Kamuinasapu, alors que ça n'a rien à voir. C'est ce qui a été démontré par la famille régnante, qui aujourd'hui est en train de déclarer qu'effectivement, ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. Donc, et quand ils partent pour démolir notamment les bureaux de la CENI, au niveau d'Ndemba, de Dimbeling et tout ça, un peu partout, et ça s'étend même au niveau des Chikapa. C'est en vertu de quoi? Parce que l'histoire doit être confiné. L'épicentre du problème, c'est un endroit précis par rapport à un problème précis.
M. Mangelo, selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ces fausses communes remontent à septembre 2016. Et on se rappelle qu'à cette époque, les forces de l'ordre s'affrontaient déjà avec les Kamuinasapu. Peut-on dire que ces fausses communes contiennent les restes de ces miliciens Kamuinasapu ou des éléments Kamuinasapu, comme vous le dites?
Oui, ça sert à s'avancer un peu vite en besogne par rapport à ces situations-là. Parce que, bon, ça fait quasiment 8 mois, il a été établi que ça fait quasiment 8 mois. Si vous remontez jusqu'en septembre, il faut remonter encore un peu plus tôt pour faire cette comptabilité précise des 8 mois. Maintenant, on ne peut pas déterminer aujourd'hui. Parce qu'on sait que les militaires sont tombés, les policiers sont tombés et les miliciens sont tombés aussi. Bon, on ne sait pas très bien qui est qui dans cette situation-là, qui a fait quoi. Vous savez, on a eu l'histoire de la vidéo à un moment donné où on a rapproché aux militaires. Aujourd'hui, les charges sont établies dans les chefs d'un certain nombre des militaires qui sont poursuivis en tant que tels. Bon, maintenant, attendons que la justice fasse son travail, qu'on puisse poursuivre. Puisque vous avez dit tout à l'heure que les porte-parole du gouvernement a établi qu'effectivement, on a déjà reconnu un certain nombre de fausses communes. Et partant de là, la poursuite des enquêtes est là, elle se continue à se faire, et on verra au terme de cette enquête-là qui a fait quoi, qui est mort, qui a été à quel endroit. Puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu 67 ou plus de 67 cercueils des militaires et des policiers jusqu'à aujourd'hui. De la même façon qu'on n'a pas eu non plus des cercueils des certains Kamuinasapu, des miliciens et autres. On n'a pas eu non plus. Donc on ne sait pas.
Des allégations sur l'existence d'autres fausses communes dans la même région sont à prendre au sérieux, mais ne peuvent encore être confirmées selon plutôt Barbara Masconi. Votre réaction?
Mais on est encore dans les allégations. C'est ça, c'est bien établi que ce sont les allégations. Donc il n'y a pas encore des précisions. Quand ça sera établi qu'effectivement ce sont des faits avérés, en ce moment on en parlera. Pour l'instant, il appartient à la seule justice militaire de surcroît d'établir effectivement si des allégations, on va passer à la réalité factuelle, juridique ou pas. Donc pour l'instant, on est encore dans les supputations. Alors on ne peut pas se prononcer sur les supputations, on attend.
Il appartient à la justice d'établir la vérité.
Exactement.
Le porte-parole du gouvernement avait annoncé que les enquêtes des juges militaires étaient en cours. Et récemment, l'auditeur général des FRDC a annoncé l'arrestation de 7 soldats des FRDC. Peut-on espérer que ces actions vont contribuer à faire la lumière sur ces dossiers?
Ben oui, la plupart des gens désespéraient en disant que bon, la justice ne faisait pas son travail en RDC. Il aurait fallu quand même qu'on puisse applaudir ces faits-là. Que les gens qui ont été poursuivis En tout cas, pour ceux qui sont concernés par la situation qu'on a vue sur les vidéos, beaucoup ont été arrêtés pour l'instant. Ils ont été identifiés en tant que tels et il y a des preuves contre eux et ils sont poursuivis dans ce cadre-là. On est en train de pouvoir maintenant qualifier les infractions les unes après les autres pour savoir qui a fait quoi, effectivement, dans quel cadre ces gens-là seront poursuivis.
Merci.
Donc, c'est une réalité factuelle.
Merci, Maître Georges Kapiamba, avocat. Vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Kajan-Sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la coalition des 33 ONG de défense des droits de l'homme. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme parle des 10 fausses communes découvertes au Kassai central. Votre réaction par rapport à ces allégations?
Alors, merci d'abord pour m'avoir associé à cette émission. Je vous dis tout de suite que ma réaction, c'est comme mon prédécesseur l'a mentionné, c'est vraiment la consternation au regard de ces révélations, parce que on ne peut pas s'imaginer que dans un État démocratique, une société qui doit combattre la criminalité en respectant les règles de l'art, qu'on puisse se retrouver devant une pareille réalité. Et rappelez-vous que lorsque des cris étaient sortis de part et d'autre, lorsque une première vidéo était diffusée, la première réaction du ministre Lambert Mende était de tout rejeter et de minimiser les faits et de ne pas accorder un quelconque crédit, même pas de laisser la place à une enquête. Il a fallu que la communauté nationale exerce des pressions sur eux pour que finalement qu'ils acceptent une enquête. Mais déjà à ce niveau, nous pensons que la demande de la MONUSCO est fondée en ce qui concerne la sécurisation des fosses communes, pourquoi pas toute la zone, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir des actions de sabotage qui pourraient aller dans le sens de détruire ou faire disparaître certaines preuves. Je voudrais aussi rappeler qu'il n'y a pas que la sécurisation de fosses communes qui s'impose comme un impératif pour le moment, mais il y a aussi la protection des victimes et des témoins qui doivent, principalement en ce qui concerne les victimes, être accompagnés à participer à toutes les étapes de cette enquête que nous voudrons encore qu'elle soit réellement indépendante, impartiale et exhaustive. Enfin, je voudrais dire que quant à ce qui nous concerne, parce qu'il s'agit des faits qui relèvent des crimes internationaux, nous continuons à croire que le gouvernement congolais finira par accepter une enquête internationale. Et l'auditeur général des FARDC a mentionné dans son intervention dernièrement qu'ils avaient besoin d'un appui de la MONUSCO, et voilà pourquoi il faut saisir au moins cette occasion pour que la MONUSCO leur apporte un appui, mais qu'il y ait aussi d'autres participants à la dite enquête pour que tous on soit rassurés de résultats qui pourront en sortir.
Maître Kapiamba, vous évoquiez, n'est-ce pas, la question de la sécurisation de ces fosses communes, ainsi que celle de la protection des victimes et témoins. Et cela doit être fait par qui?
Alors, parce que le gouvernement congolais a jusqu'ici rejeté la proposition d'une enquête internationale qui pouvait être menée avec toutes les garanties voulu par les standards internationaux, la mobilisation des moyens. Je sais que c'est un pari assez difficile, ça demande des moyens. Il n'a qu'à réfléchir maintenant pour l'accepter, de manière à ce que les partenaires internationaux puissent venir au secours de la RDC et que la dimension de la sécurisation des victimes et leur participation à toutes les étapes de cette enquête puissent être assurés, et sans oublier les témoins, parce que ça ne sert à rien de parler d'une enquête lorsque les victimes ne sont pas assurées à y participer et que les témoins ne sont pas aussi sécurisés.
Maître Kapiamba, l'émission ici est pédagogique, vous êtes avocat. Quels sont les indices qui peuvent faire croire qu'il s'agit bel et bien des fosses communes?
Alors, les indices sont déjà énoncés, c'est parce que déjà, la MONUSCO parle de certains lieux qui ont été déjà identifiés comme pouvant recouvrir un certain nombre de restes des corps. Et en dehors de ça, il y a des témoignages des habitants de toutes ces contrées. Il y a, on peut aussi recourir aux témoignages du personnel de la Croix-Rouge ou, pourquoi pas, des organisations de la société civile qui sont établies dans les dites zones. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut absolument prendre des mesures au standard international pour que la zone concernée soit suffisamment sécurisée pour éviter que certains miliciens ou certains agents de l'ordre ou membres des forces gouvernementales qui se sentiraient en danger par rapport à toutes ces révélations ne puissent pas entreprendre des actions allant dans le sens de détruire toutes les preuves possibles.
Voilà, il y a des indices et ajouté à cela des différents témoignages. Et vous pensez que cela suffit pour dire avec exactitude qui sont dans ces fosses communes?
Non, cela ne suffit pas parce que après le travail des enquêteurs, la sécurisation, il y aura des experts en la matière qui seront auxquels on devra faire recours pour identifier les corps. Il faut recourir aux méthodes de détermination de l'ADN, pourquoi pas. C'est un travail qui demande assez de moyens, mais aussi une expertise qu'aujourd'hui la RDC ne dispose pas. Voilà pourquoi nous insistons encore une fois pour que cette enquête puisse être réellement indépendante, en ce sens qu'il faudrait qu'il y ait en son sein un personnel de la MONUSCO.
Maître Rufin Loukou, avocat et chercheur en droits humains, votre analyse face à ces révélations sur la découverte, n'est-ce pas, de ces fosses communes?
Bon, merci d'abord pour l'invitation. Bon, je suis également attristé, comme tous les membres de ce plateau ou bien les co-débatteurs ici, par rapport à ces informations-là. N'est-ce pas, de nombreuses victimes qui ont été toutes ensevelies dans ces conditions-là, n'est-ce pas? Alors, ce qui est d'abord étonnant au départ, c'est l'information selon laquelle nos unités sont en campagne militaire. C'était en principe des opérations de police. Maintenant, c'est l'armée nationale qui est en campagne. Et l'armée nationale se retrouve en campagne ou en prise avec des populations civiles qu'on appelle maintenant ici Kamouina Sampou, ça veut dire dinon du chef coutumier qui a été, n'est-ce pas, abattu presque dans les mêmes opérations. On aurait d'abord voulu savoir comment nos troupes sont en campagne. Quelle est la décision, quel est le conseil des ministres qui a décidé que l'on puisse, n'est-ce pas, mettre nos troupes à pied de guerre pour remplacer la police, n'est-ce pas, ou renforcer la police. Nous ne savons pas. Et ça a commencé comment? Ça veut dire l'intervention militaire pour que nous recevions aujourd'hui des leçons de tout le monde. Oh, notre armée a fait ceci. Et lorsque vous vous rappelez la relation des faits, donc, c'est-à-dire comment les choses ont commencé, il y a eu d'abord les revendications du chef coutumier Kamouina Zampou, qui est le fils du grand chef coutumier, parce que ce monsieur-là était en Afrique du Sud, et lorsque son père était mort, il fallait un successeur, il est venu. Il était déjà plus ou moins radicalisé à partir de l'Afrique du Sud. Parce que vous n'oublierez pas que la plupart de nos compatriotes qui sont à l'étranger sont plus ou moins radicalisés en ce qui concerne leur appréhension vis-à-vis des autorités qui sont chez nous ici. Nos autorités actuelles. Il est venu dans ces conditions-là. Et
vous vous basez sur quel fait?
Par rapport...
En affirmant que les Congolais de l'étranger sont radicalisés?
Non, par rapport à la façon... D'abord, pourquoi on a interdit qu'il n'y ait pas de manifestations ou d'inscriptions de musique à l'étranger? Pourquoi on interdit que dans certaines villes, nos autorités n'y arrivent pas? Tout en as confondu. Pourquoi on ne joue plus de la musique à l'étranger, la musique nationale à l'étranger? Parce que tout simplement, ils disent que non, nos musiciens soutiennent les autorités nationales et qu'à conséquence, ils ne peuvent plus jouer à l'étranger. Donc, il y a plusieurs faits, donc ce n'est pas par rapport à ça. Ça, c'est juste marginal. Mais pour dire tout simplement que non, il est arrivé dans ces conditions-là et il était là, plus ou moins en affront avec le pouvoir central. Alors, il a été tué, et depuis sa mort, c'est quoi qui est arrivé? C'est la population de sa contrée qui se soulève contre les institutions. On a remarqué d'abord que la propension de tous ces miliciens-là, c'est d'abord s'attaquer aux symboles de l'État et aux institutions provinciales. Il y a donc une menace directe sur le fonctionnement des institutions en province. Une menace directe. On aurait aimé que déjà l'état de nécessité ou l'état d'urgence ait été proclamé dans ces contrées-là. Maintenant, vous parlez ici de Kassai central. Mais c'est tous les grands Kassai maintenant qui est concerné aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans l'ex-Kassai occidental, mais c'est dans les Kassai oriental également. C'est presque tous les Kassai qui est concerné par cette métastase. Et bon, et la façon dont on a géré ce dossier ici. Parce que si au départ on avait proclamé l'état d'urgence ou l'état de nécessité dans ces coins-là, on aurait permis à notre armée d'agir de la manière la plus directe et propre et avec autonomie. Parce que lorsque l'état d'urgence est proclamé ou l'état de nécessité, l'autorité civile cède le pas à l'autorité militaire. Et nous aurions peut-être reçu moins de reproches maintenant. Maintenant.
Donc cela devait être fait avant l'intervention des FARDC.
Naturellement.
Alors, n'est-ce pas tôt à ce stade de conclure que ces forces contiennent des éléments comme une assapou, parce qu'on sait que des côtés il y a eu des victimes, et même la réunion interinstitutionnelle a rappelé que du côté de la police il y a eu 67 victimes et plusieurs militaires FARDC. Donc ces forces peuvent contenir des éléments comme une assapou, comme aussi elles peuvent contenir des éléments FARDC et police nationale.
Bon, c'est également une allégation, mais rappelez-vous que nos militaires qui meurent sur des champs d'honneur ne sont pas ensevelis dans des fosses communes, militaires ou policiers. Ils sont inhumés avec honneur et solennellement. Donc c'est clair que ces fosses communes-là ne peuvent pas contenir nos militaires. Parce que les militaires qui meurent au front ne méritent pas une fosse commune. Bon, autant même les civils non plus, les fosses communes, parce que nos lois, le décret royal de l'époque coloniale interdit, n'est-ce pas, qu'on puisse enterrer des personnes dans une tombe. Donc la question des fosses communes est toujours marginale par rapport à la législation congolaise. Mais en ce qui concerne ces fosses communes, bon, c'est dommage parce que chez nous, la valeur de la vie, il y a longtemps, depuis toutes ces guerres ont commencé, la vie humaine plus ou moins ne représente plus les gens. C'est pourquoi nous sommes fiers de la justice militaire parce que c'est elle seule. Vous vous rappelez lorsqu'on disait si ces antennes, ça fait 10 ans, lorsque nous avons fait nos recherches sur l'étendue internationale, nous avons constaté que la seule justice c'est qui redore encore l'image de notre pays et celle dont on doit être fier. C'est la justice militaire. Maintenant, tout le monde revendique la justice militaire.
Rifin Louko, vous êtes avocat. Dans les enquêtes relatives aux fosses communes, depuis toujours, n'est-ce pas, l'exhumation est souvent exigée. Vous pensez que dans les cas d'espèce, ces fosses communes feront l'objet, n'est-ce pas, des fouilles?
Ah, naturellement. Vous voyez, lorsque Georges demande la sécurisation des sites, des liens, c'est pour l'identification, n'est-ce pas, de ces éventuelles victimes ou de ces probables victimes. Et leur identification passe par l'exhumation. Donc, lorsqu'on dit il y aura enquête, ça veut dire les magistrats qui vont descendre là-bas, qui sont déjà descendus, vont procéder notamment à l'exhumation avec des experts légistes, comme on les appelle, pour identifier ces corps et remonter les temps de leur mort, ou bien donc la date où ils ont été tués ou ensevelis. Ces enquêteurs peuvent faire ça.
Merci. Maître Mandjolo, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lodja.
Gaston Kanangelo depuis la province du Sankuru à Lodja. Je pense que cette situation est vraiment catastrophique et prouve que le gouvernement central en général et le service de sécurité en particulier ne s'occupent pas réellement de la protection de la population. Pour ce faire, les premières fosses communes ont été découvertes par les pays étrangers et pour la deuxième fois, c'est le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui fait ces révélations. Par contre, l'équipe des enquêteurs du gouvernement central envoyée dans cette partie du pays n'a pas donné aucune information relative à ces dernières découvertes de ces fosses communes. La question qu'on doit se poser est de savoir si ces allégations du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme seraient vraies, quelle sera la position du gouvernement central pour justifier ce fait.
Maître Guillaume Mandjolo.
Oui, je pense qu'il faut déjà au fait relativiser la position de l'intervenant. Il a été dit que le ministre de l'information, en fait des médias, et porte-parole du gouvernement a dit clairement qu'effectivement ils étaient au courant d'un certain nombre d'informations, mais ils ne pouvaient pas le mettre à la place publique parce que ce n'était pas à l'objet. Parce qu'il y a des enquêtes autour de ça pour faire en sorte qu'on puisse savoir de quoi il s'agit exactement. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il faut quand même relativiser. Même si je peux comprendre la frustration par rapport à la sécurité qui est exigée à un État par rapport à ses citoyens. Donc je comprends très bien. C'est tout à fait légitime. Mais en même temps, on ne peut pas surfer sur ce type de douleur pour pouvoir commencer à mettre en perspective tous nos ressentiments. Ce n'est pas nécessaire. Pour l'instant, il faut qu'on puisse avancer pour trouver faire la lumière sur la situation. Donc ça, c'est pour moi... Mais en même temps, je souhaiterais un peu revenir d'un pas en arrière. Le confrère Georges, en sollicitant la justice internationale, c'est-à-dire que ce qui départ, on jette l'opprobre sur notre propre justice en disant que bon, elle n'existait même pas. Si on doit partir du principe qu'effectivement, la démarche juridique d'un pays ou judiciaire d'un pays consiste d'abord elle-même à pouvoir s'engager, faire son travail et subsidiairement on peut faire appel à une structure étrangère. C'est ça les principes qui gouvernent en fait la justice à travers le monde.
Et donc ce n'est pas exclu, on peut faire appel là,
c'est subsidiaire. Mais dans un premier temps, il faut qu'on soit d'abord nous-mêmes en mesure de pouvoir regarder ça. Si vous ne voulez pas vous élever au rang d'être humain avec une structuration politique, judiciaire, souveraine, alors donc vous acceptez de vous soumettre en permanence aux autres. Or, ici, je viens d'entendre...
Mais il a évoqué deux faits importants, la sécurisation des fosses communes ainsi que la protection des témoins et des victimes. Est-ce que nous sommes en mesure de faire ce travail-là?
Mais je viens d'entendre aussi en même temps le confrère Ruffin dire... que la justice aujourd'hui à laquelle on fait référence en RDC, c'est la justice militaire qui fait très bien son travail. Donc, et en Afrique centrale, on en parle. Et nous sommes assez réputés à ce niveau-là, hein, puisqu'on fait appel à nous un peu partout. Pourquoi est-ce qu'en RDC, on n'aurait pas de compétences alors qu'on nous réclame ailleurs? Donc ça pose un problème à la fois de crédibilité de ce qu'on dit ou d'animosité par rapport à ce qui existe, quand ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'à un moment donné, il faut relativiser. Vous savez, lorsqu'on parle des allégations, la communauté internationale a dit... Il m'en souvient encore, dans les années 90, l'histoire des Timisoara, où on a attaqué la Roumanie a fait cela par la communauté internationale. Alors que c'était faux. C'était complètement faux. On a fait des grands titres sur TF1 notamment, en expliquant tout ce que...
Là, on parle ici des indices, n'est-ce pas? On a vu des ossements, des restes humains.
Il faut relativiser, toujours relativiser. On ne sait pas, comme disait le confrère Ruffin aujourd'hui, tout à l'heure, ça date de quand? Ça remonte à quand? Dans quel contexte? Ils ont été tués par quoi? On ne sait pas encore. Dans la justice, il faut éviter de s'avancer en disant « je sais, il faut ».
Donc, Maître Madiolo, Maître Ruffin Loukoua a aussi relevé un point important, c'est l'intervention des FRDC. Et on sait que au départ, n'est-ce pas, quand ce problème a éclaté, c'était plutôt la police qui faisait le travail sur le terrain. Mais après, on s'est rendu compte que la police a été mise à l'écart. C'était plutôt les FRDC qui ont commencé à faire le travail. Et maintenant, il se pose la question de savoir quel est l'effet qui a fait que ce soit les FRDC qui puissent prendre les choses en main.
Mais je pense
alors qu'au préalable, on n'a pas encore détecté l'état des sièges.
J'ai affaire à un juriste qui doit savoir qu'il y a des effets de police par rapport à la cité, à la gestion de la cité. Et lorsqu'on rentre dans l'insurrection militaire avec des armes de guerre, on n'est plus dans les effets de police. On est dans une situation militaire avec des actes militaires posés par ceux qui sont en face de l'armée. Et par conséquent, c'est l'armée qui doit intervenir. Ce n'est plus de l'ordre de l'autorité des polices. La gestion policière est liée à la sécurisation des personnes et des biens à un endroit donné précis. Mais ce n'est pas en campagne. Ces gens-là ne sont pas dans la cité. Ils sont en campagne avec des armes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart du temps? Je parle des miliciens criminels. Je ne parle pas de la famille commune. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui ne veut pas de ça. Qui ne veut pas qu'on l'associe à ce qui se passe à Luisa, ce qui se passe en Demba, ce qui se passe à Limbelenge. Et maintenant, on dit que ça s'est étendu quasiment dans tout l'espace. Que ça n'a plus rien à voir avec cette famille-là qui réclame une chose simple par rapport à sa succession naturelle. L'arrêter par rapport à la succession telle qu'elle devait être faite. Et en plus de ça, au jour d'aujourd'hui, la réclamation, c'est d'avoir les résidus du corps du Décus, de sorte à ce qu'on puisse faire les cérémonies ancestrales et faire la passation du pouvoir. Il s'agit de ça.
qu'est-ce que ça a à voir avec les gens qui sont en campagne, armés jusqu'aux dents, en train de pouvoir terrasser la population? Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, aujourd'hui même, ceux qui, soi-disant, s'étaient déjà livrés, il y a un groupe de gens qui s'est encore réveillé pour continuer ce type d'exaction, alors que ce n'était pas nécessaire. Donc ça pose un problème de crédibilité de ce qu'ils opposent à la loi.
Et donc, pour vous, il s'agit d'une rébellion, et donc vous justifiez l'intervention des RADC.
Mais lorsqu'il y a une insurrection des types et caractères militaires avec des armes de guerre, il appartient à l'armée d'intervenir et non à la police, qui n'est pas outillée pour faire ça.
Merci, Maître Geoffrey Kapiamba. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Butembo, nord Kivu.
Je suis Kakule Moutseke, je vous appelle depuis Butembo. Les déclarations, il y en a déjà eu dans ce pays, mais il y a lieu de remettre en cause l'impact de ces déclarations sur terrain. Des massacres de plus de 1000 personnes à l'est, des fosses communes à Maluku, des fosses communes au Kasaï central, des corps retrouvés flottant sur les eaux en Chili, mais la situation ne fait que s'empirer dans ces pays. Et alors, nous n'avons pas besoin de déclarations. Je pense qu'il faut mieux des actions au lieu des déclarations.
Maître Georges Kapiamba.
Alors, je crois qu'il faut aussi relativiser quelque chose, hein, parce que quand j'entends les confrères
Maître Mandiolo
parle d'une insurrection avec arme de guerre, je ne sais pas, il tire ça d'où. C'est encore très tôt, hein, pour affirmer ce genre de choses. De toute façon, les vidéos qui ont circulé jusqu'ici, la première comme la deuxième qui vient d'être retrouvée, ne font pas passer des miliciens porteurs d'armes de guerre. Donc, je crois qu'il faut se réserver avant d'affirmer cela. C'est pour dire que Maître Riffin avait raison de se demander pourquoi, qu'est-ce qui a justifié la présence des militaires dans ces zones, alors que s'il y avait des troubles à l'ordre public, c'était de la compétence principale de la police qui, lorsqu'elle se sent être débordée, elle fait la réquisition aux forces armées combattantes. Alors, en ce qui concerne la question qui vient de Butembo, c'est vrai, nous posons aussi cette question de savoir finalement qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'on entend par un état de droit. Parce que un état de droit, c'est celui dans lequel, lorsqu'il y a une moindre allégation par rapport à la commission des crimes, à la commission des actes de nature, à prendre les corps des crimes internationaux, doit pousser les autorités à mettre en marche une enquête indépendante, exhaustive et impartiale. Parce que même si c'est une simple allégation, parce que j'entends, ça revient toujours, c'est une simple allégation, mais tout commence par là, c'est l'allégation qui doit donner lieu à une enquête. Et l'enquête elle-même doit être indépendante. Il y a des critères qu'il faut maîtriser pour que qu'on dise que l'enquête est réellement indépendante. Voilà pourquoi nous disons que dans l'état actuel, sans avoir la prétention de minimiser le travail de nos magistrats militaires, nous disons qu'il y a lieu de faire plus pour le gouvernement congolais, c'est-à-dire d'accepter la présence d'un personnel international pour donner de la chance à cette enquête d'aboutir sur des conclusions qui pourront au moins donner de la valeur même au travail qui est fait sur le terrain. Qu'à ce stade, les choses telles que se déroulent ne peuvent pas nous permettre de dire que les conclusions qui en sortiront pourront être acceptées par tout le monde. Alors, enfin, je voudrais revenir sur la question de l'absence des conditions exigées pour que l'enquête on s'ouvre à l'international. Je corrige pour dire que je n'ai pas parlé directement d'une justice internationale qui, comme le confrère l'a mentionné, doit intervenir après lorsqu'il sera constaté qu'au niveau national il n'y a pas de volonté ou on n'a pas de capacité. À l'état actuel, nous devons tous reconnaître que nous n'avons pas suffisamment de capacité pour mener cette enquête. Il faut avoir un appui extérieur.
On ne peut pas continuer à parler de la souveraineté, même dans les domaines où on n'a pas de capacité.
Et donc là, vous donnez raison à cet auditeur de Butembo qui parle des révélations qui n'ont pas d'impact parce qu'elles donnent lieu à des enquêtes qui n'aboutissent jamais.
Oui, ben, il a raison. Il si je prends seulement le cas de la Maluku. De Maluku jusqu'à aujourd'hui, quelle est la vérité? Quelles sont les conclusions qui ont été déjà rendues publiques par nos autorités sur cette question? Absolument rien, c'est un silence total. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il n'y a pas de volonté politique, mais il n'y a pas de capacité. Il ne faut pas aussi oublier un élément, et ça doit nous pousser tous à dénoncer. Comment expliquer que ça soit un gouvernement qui prend les devants pour vouloir justifier ou rejeter des allégations portant sur les atteintes portées contre les vies humaines, au lieu de laisser la justice elle-même se mettre en mouvement, enquêter et puis dire à l'opinion nationale et internationale qu'effectivement ces allégations ont été vérifiées, qu'il n'y a rien eu par rapport à tout ce qui a été vanté. Pourquoi le gouvernement avait-il bloqué toute possibilité de mener l'enquête sur ces révélations? Et c'est seulement aujourd'hui que nous entendons que le ministre Mendidi reconnaître au moins 3 fausses communes et qu'il pense qu'il y aurait d'autres. Nous demandons à ce que le gouvernement se mette à l'écart.
Et vous pensez que le gouvernement avait intérêt à bloquer les enquêtes?
Non, au début, il y a eu obstruction. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Il y a eu obstruction à toute enquête. Et l'enquête qui a été menée à ce jour, personne d'entre nous qui sommes ici pour débattre ne connaît quelles sont les limites qui sont fixées à cette enquête, quelle est la zone pour laquelle l'enquête doit se mener. Il faut laisser la justice, lorsque vous voulez avoir une justice réellement indépendante au service de la nation, il faut la laisser prendre ses initiatives chaque fois qu'il y a une situation qui requiert son intervention.
Maître Lucien Loko, il y a une question pour vous, elle vient de Dungu. C'est une question qui vient de Dungu.
Crespin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Touélé. Encore une énième révélation scandaleuse des fausses communes dans ce pays. On dirait monnaie courante parce que les responsabilités ne sont jamais établies. Et c'est vraiment puni pour décourager cette odieuse pratique. Ce sont toujours des ONG à dénoncer les premiers, les sites de carnage. Cependant, peut-on toujours découvrir sans avoir une idée sur les victimes et surtout sur les auteurs à dénoncer?
Maître Rufin Loko.
Bon, Ali, je vous ai bien suivi très attentivement. Bon, la difficulté ici maintenant, c'est que tout le monde ne veut pas tirer la leçon. Quelle est la leçon? C'est que j'ai posé ce que j'ai appelé le décor. Comment nos troupes se retrouvent en opération ou en campagne sans aucun acte quelconque? Cette question-là, je l'ai posée.
Maître Mandioro a parlé d'insurrection.
Non, attends, c'est un jugement. C'est un jugement, il est prématuré de dire insurrection. Parce que les images qu'ils nous envoient nous ont montré des populations civiles, n'est-ce pas, face à notre armée. Alors, la difficulté, c'est que les faits que nous entendons sont constitutifs des crimes internationaux. Ça veut dire des crimes de guerre. Ça veut dire des militaires d'une armée régulière qui s'attaquent à la population civile. Ça, ce sont des crimes de guerre. À la suite, ça peut aussi déborder à des crimes contre l'humanité. Or, actuellement, les statuts de Rome prévoient que lorsque on doit juger des crimes de guerre, ou en général, les crimes internationaux, il faut remonter à la responsabilité du chef hiérarchique. C'est pourquoi la question est de savoir comment nos troupes se retrouvent en opération militaire, sans qu'il y ait un conseil des ministres qui l'ait décidé, ou un conseil supérieur de la défense. L'on ne voit pas ça. Jean-Pierre Bemba est condamné comme chef hiérarchique pour ce qui s'est passé à Centrafrique, alors qu'il n'y a jamais été. Il n'a rien fait personnellement, lui. Il était en Afrique du Sud, mais il a été condamné. Il va passer la moitié de sa vie restante en prison comme chef hiérarchique. Le chef hiérarchique. Qui est celui? Bon, qui est celui qui a envoyé nos troupes là-bas? Qui est celui qui a décidé que ça ne soit plus la police, que ça soit l'armée? Parce que ces mouvements-là, cette étape-là, cette mutation-là, d'une population qui doit être maîtrisée, arrêtée par la police, c'est que ce soit l'armée qui les fasse. Et que de l'armée, on avait appris d'abord qu'Abouména Sampé a bâti avec une partie de sa famille. Les premières fausses communes avaient déjà été dénoncées par la société civile de Demba, de Dibaya, de Dibelengue à l'époque. Personne n'en a fait cas de ça, en termes d'enquête.
Maître, on ne parlerait pas de crimes de guerre si c'était la police qui s'était, n'est-ce pas, chargée de faire le travail et qu'il y aurait un degré important,
police,
n'est-ce pas,
la de police violence. Qui fait son travail ne tue pas sa population. L'armée qui doit faire son travail contre sa population, ce n'est pas pour la tuer.
Mais lorsque la même police peut se permettre, n'est-ce pas, de tuer en masse,
ça serait un crime de guerre, autant. Ça serait un crime de guerre. Donc, dans tous les cas d'espèce, les hommes en uniforme qui s'attaquent à la population civile, qui est une population protégée par les conventions de Vienne et de Genève, eh bien, ça s'appelle crime. Alors, l'on doit savoir qui est l'autorité qui a ordonné que nos unités puissent se retrouver faire ce travail-là. Donc, cette histoire des fausses communes, si ça se révèle vrai, c'est très grave parce que ça va emporter les images que nous avons tous, n'est-ce pas, auditionnées ou visualisées, qui donnent que des militaires en train d'enregistrer pendant que des actions des meurtres et consorts sont en train de s'opérer des vailles avec leur téléphone, portent à croire que ce sont des faits prémédités. À la limite, télécommandés. Ça doit être réprimé. Moi, je suis fier de notre justice parce que là, nous célébrons aujourd'hui, n'est-ce pas, la nomination d'un procureur spécial, n'est-ce pas, pour les crimes qui se sont passés en Afrique, parce que nous avons été une justice exemplaire, une justice de référence. Notre justice militaire, donc nous allons demander qu'elle puisse donner ses preuves et faire ce qu'elle a toujours fait.
Merci.
Pour que justice soit faite et que nous puissions savoir les auteurs et éventuellement les voir jugés.
Merci, Maître Guillaume Mangiolo. Votre réaction par rapport au propos de Maître Karifé Loukou?
Oui, le confrère Ruffin dit des choses qui, de fois, ce sont de très bonnes choses parce qu'il reconnaît qu'effectivement, on a une justice qui est capable de pouvoir trouver des solutions. Mais en même temps, il essaie de pouvoir les noyer dans autre chose que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Et vous devez savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les curseurs ont été déplacés en ce qui concerne l'insurrection et les terrorismes, notamment dans les centres urbains. Au jour d'aujourd'hui, c'est classique. C'est classique. L'intervention militaire face à une insurrection des gens qui commettent les actes de terrorisme. Et j'aime un peu tourner du côté de monsieur, du confrère Kapiamba. Je ne sais pas si vous avez la précision de ce qui s'est passé exactement dans les Kasaï centrales, ou vous êtes limité seulement à la vidéo que tout le monde a vue, la seule vidéo qu'on a vue. Parce que les terrorismes...
Je vis une deuxième.
Oui, mais moi je ne parle pas de ça, je parle de ce qui se passe directement à Kananga depuis presque 3-4 mois. Il ne s'agit pas de ce que vous avez vu.
Maître Mangiolo, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir la vérité éclater dans cette affaire?
Oui, mais là...
C'est votre conclusion.
Là, une fois de plus, je vais rappeler ce qui vient d'être dit par les confrères Ruffin. Assez clairement, nous avons aujourd'hui une institution qui s'appelle la justice militaire, qui est extraordinaire, reconnue en tant que telle, qui est en train de faire un travail. À peine avait-elle été saisie de la situation des militaires, des histoires qu'on avait vues sur les vidéos, il y a déjà des poursuites, il y a des gens qui sont identifiés, il y a des gens qui sont poursuivis, exactement. Donc, nous pouvons espérer, et légitimement espérer, qu'on aura une issue heureuse par rapport à ça.
Merci, Maître Kapiamba, votre conclusion.
Alors, je pense que c'est vrai qu'il y a eu d'autres actes de banditisme dans la ville de Kananga, mais cela ne change pas la configuration de cette province en ce qui concerne les crimes les plus odieux qui ont été commis. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que l'enquête militaire soit transformée en une enquête réellement indépendante, exhaustive, impartiale, avec la présence d'un personnel étranger.
Maître Ruffin,
bon, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on néglige Yaï Mordo, mais tout cela a commencé par des vidéos. Ceci explique cela. D'une image à une fausse commune, il y a donc une responsabilité qu'on doit établir. Merci. Et rassurez-vous que cette justice, si elle est laissée faire son travail de tête, va tomber en termes de responsabilité, voire même de ministre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.